Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Première, je voudrais dire pardon à les supporters.
Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats.
Je dis pardon à tous les supporters.
Je dois juste dire à nos supporters, excuse.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h04, merci d'être là en ce jeudi soir, le 27 juin. Florent Gautreau, Walid Acherchou en direct jusqu'à minuit, toujours en direct sur YouTube. Pour une heure d'euros encore à passer ensemble avec dans un instant l'avis tranché de Walid concernant le management de Didier Deschamps. Avis de Flo également à suivre concernant ce huitième de finale contre la Belgique. On va se projeter. Flo veut voir Giroud titulaire s'il est à 100%. 32-16 si vous voulez venir réagir et participer au débat dans l'after. Et puis en fin d'émission, l'actu du jour, sorte de mercato show. Grosse journée pour les Olympiques lyonnais et marseillais. Il y a des transferts qui se font déjà. On va vous raconter tout ça. On est aussi un petit peu sur notre débat parallèle sur les cheveux. J'ai vu sur le Direct Studio, on me dit Lewis Hamilton, le plus gros comeback de l'histoire de la F1, les cheveux de Lewis Hamilton. C'est vrai que il était.
C'est vrai. Et dans le top 3, on pourrait rajouter Ter Stegen aussi.
Ah d'accord.
Ah je l'ai pas aussi.
Ter Stegen qui a fait un petit passage en Turquie, mais pas pour jouer au football.
Puis sur YouTube, on nous dit Laurent Baffy, la grève de cheveux qui a clairement échoué, c'est celle de Rafa Nadal. Effectivement, c'est un échec cuisant.
Ouais, Rafa, cuisant, ouais. Rafa. Beaucoup plus fort avec son coup droit en lasso.
Ouais. Mais voilà, après le chauvinisme, oui. Comme on dit, va très bien.
Exactement.
Et te va très bien, Willy.
Oui.
Si vraiment.
On en est fiers. Et assumons nos calvitie en 2024.
Exactement.
Et certaines équipes ont pu aligner leur coiffeur.
Oui, ce qui n'a pas été le cas de l'équipe de France.
C'est pas le cas pour les Bleus.
Dont on va parler maintenant. Les Bleus qui, aujourd'hui, se sont entraînés. Conférence de presse avec la défense centrale. William Saliba, Dayot Upamecano. Sachez également, notre cellule équipe de France, nos reporters qui suivent les Bleus nous remontent également ce soir que cette inefficacité offensive des Bleus, Didier Deschamps cherche à comprendre ce qui se passe. Il a bien vu Deschamps ses stats qui font que les joueurs français ont cumulé 5,7 expected goals, les buts attendus suite aux occasions créées par l'équipe. Donc la France qui est aussi la nation qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Donc Deschamps a ces stats-là en main. Il donc met lui en avant dans sa réflexion le fait que c'est peut-être un manque de confiance et donc il s'attache en ce moment à travailler sur la confiance de ses attaquants en espérant qu'un déclic intervienne. L'équipe de France qui affrontera la Belgique.
En parlant de l'efficacité, j'ai vu un très bon tweet de Martin Monnier, un collègue d'Eurosport, après la rencontre, qui disait qu'hormis Kylian Mbappé.
Ah, Jean-Baptiste ?
Non, Martin Monnier.
Okay. Ouais.
Il disait que hormis Kylian Mbappé, les stats des offensifs cette saison en championnat étaient faméliques. Je crois que ça dépassait pas les 10 buts.
En équipe de France.
En équipe
de France. Oui.
Équipe de France.
Avec le deuxième meilleur buteur derrière, il doit être à 5 buts.
Exactement.
Bah oui, parce que le deuxième meilleur buteur, il est chez les Olympiques.
La Cazette
est avec l'équipe olympique, donc elle peut
aussi, c'est une histoire. C'est aussi peut-être une histoire de choix d'homme dans les listes.
Non, mais c'est
en termes de confiance, si tu prends des joueurs qui sont pas en confiance dans leur club.
Ouais, non, mais alors d'un autre côté, Wallis, on a une vieille stat qui date de 2002. Où on avait les meilleurs buteurs de 4 championnats, tu sais, au départ pour la Coupe du Monde, et on est reparti.
Trezeguet, Henri, Cissé.
Et Guivarch, non, c'est pas un truc comme ça. Non, c'est Guivarch, 98. Peut-être 3.
Et on n'avait pas mis un but, c'est ça, 2002.
Pas un but, ouais. Zéro but.
Retour sur l'équipe de France 2024 avec l'avis de Walid.
Ça commençait à devenir un petit peu effilé façon oignon.
Tu nous as dit ça ressemble à Bouteflika.
À Bouteflika.
Ah oui.
Malheureusement à ce moment-là, j'ai dit on va raser le kiwi.
Ah bah voilà. En rapport avec Fort Team à la Real ce soir.
Exactement. Je disais en fait le tweet c'est sur le 11 de départ, de Didier Deschamps, hormis Kylian Mbappé, aucun joueur n'avait dépassé les 5 buts en championnat cette saison.
On avait totalement compris, mais.
Vous avez compris.
Le gardien qui n'avait pas marqué 5 buts, Saliba.
Du coup, on a bien.
Vaut mieux préciser, en
Ouais, c'est vrai. Du coup, on a très bien compris.
Oui, oui, je voulais parler du management de Didier Deschamps qui m'inquiète avec plusieurs points. Il y a beaucoup d'articles. Fabrice Hawkins en a parlé notamment hier soir, qu'il y avait certains joueurs qui se plaignaient du management, du fait que Didier Deschamps mettait un peu de côté les remplaçants, que certains leaders, je crois que Flo parlera de Giroud tout à l'heure, de Griezmann aussi qui a été écarté sur le troisième match. Il y a aussi beaucoup d'articles dans l'équipe cette semaine qui parlent de cette gestion de Deschamps qui fait débat. Et moi, ça m'inquiète parce que ça. C'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps quand même sur les dernières compétitions, hormis peut-être 2021 où il s'était un petit peu perdu et on l'avait vu en 2021 comment ça s'était terminé. Il a quand même une ligne directrice et là je trouve que sur les trois matchs en termes de management, je ne la perçois plus. Je vais commencer avec bien évidemment le premier match où il met Saliba qu'on appelait de nos voeux. De par ses performances à Arsenal, mais qui il y a trois mois où il nous disait que Saliba il avait trop de manques et que pour lui il n'était pas aussi fort que le journaliste le disait en conférence de presse. Après un bon match de Saliba contre le Canada, il l'impose titulaire alors que sa charnière centrale était Upamecano Konaté, donc il sort complètement Konaté des trois matchs pour mettre Saliba. Au passage, c'est une réussite, hein, c'est peut-être notre satisfaction des phases de poule, mais déjà en termes de management, je trouve que le volte-face en trois mois est un peu étonnant de la part de Didier Deschamps. Première chose. Deuxième chose, le cas de Tchouaméni, après N'Golo Kanté. Moi je suis persuadé qu'N'Golo Kanté arrive en équipe de France parce que il a entrevu des gros manques contre l'Allemagne lors du dernier match amical, notamment sur le dernier rassemblement, et qui ramène Kanté un peu comme quand il ramène Benzema en 2021, parce qu'il se dit oulala, dans ce secteur de jeu là, il va falloir que j'apporte de la fraîcheur et de la fiabilité. Sauf que entre temps on a Tchouaméni qui est blessé, et Tchouaméni qui était le titulaire au poste de cette équipe de France qui a un certain statut. On commençait à avoir des petits bruits de couloir. Thibaut, vous voyez, Tchouaméni, il n'a pas démarré le premier match, il était un peu frustré. Et moi, je pense que sur le deuxième match, il met cette association à quatre avec Rabiot, Griezmann, Tchouaméni et Kanté, parce que il ne peut pas sortir Rabiot et Kanté après le premier match contre l'Autriche parce qu'ils sont très très bons, qu'il ne peut pas sortir Griezmann à ce moment-là. Et donc, il fait ce petit compromis en disant non, Barcola, il est un peu trop léger, il a pas d'expérience, je vais pas le lancer contre les Pays-Bas et je vais faire un compromis, tout le monde sera content et puis on va intégrer Tchouaméni au poste de milieu de terrain. Donc dans le management, encore une fois, j'ai l'impression que Didier Deschamps veut faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et sur le troisième match, j'arrive sur le bouquet final, on repasse en 4-3-3, il a, pour le coup, il coupe une tête, celle de Griezmann. Il met Barcola, alors qu'on l'appelait de nos voeux contre les Pays-Bas, en sortie de banc ou au poste de titulaire. Barcola, qui est le meilleur joueur avec Mbappé offensivement, en tout cas le plus dangereux sur les 60 minutes, il sort à la 60e, alors que Dembélé, qui apparemment a un statut, un totem d'immunité, sort à la 80e derrière Barcola. On a un Griezmann qui rentre et qui fait l'amour, hein, clairement, qui a une attitude qui est très très bizarre. On a un Marcus Thuram qui joue les deux premiers matchs. Giroud qui ne joue pas, qui boude un petit peu. Enfin, apparemment, il veut pas trop bouder selon les articles de l'équipe, parce qu'il veut pas mettre en péril l'équipe de France, mais il comprend pas trop la gestion de Deschamps. Il pense qu'il peut apporter beaucoup plus parce que il estime qu'il a un statut dans cette équipe. Et je trouve qu'il est en train de s'embourber dans les statuts, sans compter la déclaration de Fofana, sans compter apparemment certains joueurs qui sont pas content d'avoir des minutes, Konaté, et on est en fait dans le flou total avant ce huitième de finale où on sait pas si on va repartir avec Thuram, on sait pas si on va repartir avec Giroud, quid de Griezmann, quid du milieu à 3, du milieu à 4. Et voilà, moi je trouve que Deschamps s'est embourbé dans une espèce de management sur les trois matchs qui m'inquiète fortement.
32-16, si vous voulez venir réagir, d'accord ou pas avec Walid, Flo?
Ouais, plutôt d'accord, et surtout sur les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire, t'as cité l'Euro 2021.
Oui, déjà, il avait fait un peu des compromis, c'était, un peu partout.
C'était déjà un peu bizarre, et là où on avait vu qu'il avait perdu la main, c'était pour moi dans la séquence avec Coman, qui refuse de sortir. C'est-à-dire que Deschamps, c'est quand même le boss absolu, tu vois. Cette séquence, elle est dingo. Et je m'étais dit en 2022, quand Benzema est parti, que ça a arrangé tout le monde après l'avoir rappelé. Mais à ce moment-là, c'est que pour lui, c'était plus simple après de gérer ce groupe comme ça. Il a repris la main, en fait, sur son groupe pour la Coupe du Monde. Ce qui explique aussi la réussite en Coupe du Monde. Alors que, footballistiquement, l'équipe de France n'est pas meilleure, pour autant. Mais effectivement, comme Deschamps, sa grande plus-value, c'est le management, justement, d'ordinaire. C'est par ce biais-là qu'il arrive à constituer un groupe, une osmose de groupe à la Jacquet. Hein. C'est très, très simple. Hein. C'est le copier-coller. Avec encore un peu plus d'expérience, un peu plus de longévité. Donc, pour les jeunes joueurs qui arrivent, un peu plus, ils sont un peu plus impressionnés par le bonhomme, normalement. Mais là, tu arrives toujours dans la deuxième phase. C'est-à-dire quand les joueurs se sont un peu plus installés. C'est-à-dire que quand tu prends la première phase où les mecs débarquent, tu les as à ta main. Dès que tu commences à avoir des gens qui ont un peu plus de carrure, genre Benzema, compliqué, un coup de bol, il est blessé et on le retient pas, il se barre. Je reprends la main sur le groupe. Et là, c'est vrai que cette année,
mais là pourtant on est là-dessus là. Il y a eu des départs, il y a les Varane, ouais, il y a Lloris.
Sauf que là, attention, t'as des mecs à statut qui jouent pas. C'est-à-dire Giroud, mec à statut, qu'on le veuille ou non, qui joue pas. Griezmann, grosse surprise. Mec à statut qui avait enchaîné, c'est un record, 31 matchs consécutifs dans les grandes compétitions, 32 je sais plus, entre que ce soit Euro ou Coupe du Monde. C'est du jamais vu en équipe de France, c'était du jamais vu. Donc là, il lui a coupé sur un match sans raison, je veux dire, pas de suspension, pas de blessure, il a coupé Griezmann. Il faut se souvenir pour Griezmann que le capitana, c'est pas totalement une affaire enterrée. C'est-à-dire que cette histoire de capitana, moi-même j'avais milité pour Mbappé, mais après coup je suis plus très sûr d'avoir eu raison. Mais peu importe. En tout cas, Griezmann, de la façon aussi dont ça avait été communiqué, l'avait pas bien pris. Donc c'est vrai que tes relais, les joueurs qui sont avec toi, que t'as soit soutenu, soit, faut se rappeler que Giroud, l'histoire avec Deschamps, elle est pas aussi simple que ça. Giroud, à un moment donné, il lui dit, en gros, il a fait, et c'est terminé. Et Giroud rappelle, en l'emmerdant, en lui disant, non, mais moi, je suis prêt à être sur le banc, il n'y a pas de problème, je suis prêt à venir à la Coupe du Monde. Donc, ça fait beaucoup de trucs, à mon avis, où les mecs, entre eux ou en eux-mêmes, se disent, ouais, ils ont dit le coach, mais ils commencent à nous les gonfler. Et puis, il y a le cas Mbappé. Comme dans toutes les équipes où il y a Mbappé, comme au PSG. Quand tu vois que l'équipe, t'es obligé de la changer dans tous les sens parce que tu sais pas où mettre Kylian, parce que bon, Luis Enrique, c'est le grand méchant loup, évidemment, on sait. Évidemment. Sauf que Luis Enrique, Mbappé l'a remercié d'ailleurs, hein, il m'a sauvé la vie dans le truc pour dire qu'un mec qui te déteste soi-disant, tu sais, au passage. Mmh. Mais c'est compliqué. Donc les autres joueurs disent, bon, bah, ok, comme d'habitude, on change l'équipe parce qu'il veut pas défendre, on le met en neuf, ah, mais il veut pas faire pivot, on veut machin. Donc, quand un coach se met, on va dire comme ça, au service d'un joueur, bah pour les autres joueurs, si, quand ça gagne, ça passe. Quand ça commence à moins gagner et à moins marquer, c'est compliqué. Donc là où je rejoins Walid là-dessus, maintenant, l'histoire, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que Deschamps, c'est quand même un magicien. En termes, là, je parle de management. Deschamps, sa vie est assurée en termes de conférences dans les entreprises jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, c'est un cas d'école. Si on était à l'analyse de l'euro à la fin, je dirais, bon, ok, c'est ça l'histoire de l'euro, mais là, il a les moyens de reprendre les manettes, enfin, il a les moyens, ou pas.
Oui, mais on a eu trois compos différentes, alors Flo.
Peut-être, mais en tout cas, la seule chose, c'est que j'attends plus qu'un avis définitif, moi maintenant, là, j'attends de voir comment Deschamps va reprendre la main sur
comment
son groupe.
Comment il rebondit en huitième,
parce que je pense que, okay. Effectivement, la clé pour les Bleus, c'est pas le jeu. On va pas trouver de l'animation offensive comme ça entre deux matchs.
C'est le management.
C'est le management.
On continue le débat dans un instant avec Walid qui a encore des choses à dire. Ouais. Avec Flo, avec Majid qui nous a appelé au 32-16 et qui patiente, qui sera avec nous en direct dans un instant. N'hésitez pas, hein, le 32-16 si vous voulez venir débattre avec l'after où on va se projeter également vraiment côté terrain sur ce match de la Belgique avec Giroud en débat dans un instant. Vous êtes sur RMC, c'est l'after. On est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Quel plaisir d'être avec vous en ce jeudi soir, sans match de l'Euro, mais after, comme tous les soirs de l'année, avec Florent Gautreau, avec Walid Acherchou. On est en direct jusqu'à minuit, avec vous tous sur YouTube. Vous êtes très nombreux ce soir. Merci d'être là. La chaîne de l'after, @after-foot, et au 32-16. Dans quelques minutes, l'avis de Flo, qui milite. Est-ce que tu milites d'ailleurs, parce que c'est un peu
combien
fort
de
pour
fois
la titularisation de Giroud.
Pendant combien d'années j'ai milité pour Olivier Giroud?
C'est vrai qu'il faut peut-être.
Quand j'ai vu le teaser, j'étais très étonné. Tu vois.
Alors, à un moment donné, je l'ai même bizarrement, je lui ai demandé de prendre la porte de l'équipe de France. Ça m'est arrivé quand même.
Mais ça, on l'a oublié, tu vois.
Enfin, on l'a oublié.
Mais d'abord,
ça me permet juste
la
de
Walid, ouais.
Désolé, je l'ai dit sur Twitter, mais pas dans l'after.
Mais Twitter n'est pas la vraie vie. Donc dis-le, dis-le dans la vraie
là,
vie.
Là, c'est la vraie vie. Comme Giroud, évidemment, vous le savez, a joué à Tours. J'ai un message pour tous les supporters, tous les fans du club de Tours, parce que j'ai eu liquidation judiciaire cette semaine. Un désastre total pour un club qui était déjà relégué, enfin qui jouait en National 3 cette saison, mais qui avait déjà perdu de sa splendeur, mais qui est donc liquide administrativement. Il y a certains appels possibles, mais je voulais avoir un message pour tous les gens qui suivent le club et surtout pour les joueurs et les jeunes qui jouent encore, parce que c'est un maillot bleu ciel et noir pour nous qui est mythique, et pour moi évidemment qui est, c'est incroyable, c'est une douleur dingue, parce que c'est un club qui est monté en première division et qui a été pro pendant longtemps. Donc message pour les supporters, les joueurs actuels et les gamins du club et les éducateurs pour cette nouvelle galère qui va faire redescendre le club je ne sais où, dans je ne sais quelle division. C'est dans ce club qu'Olivier Giroud notamment a joué.
C'est révélé d'ailleurs en Ligue 2, je crois.
Ouais, c'est là qu'il a rebondi.
Pas que, hein, Denis Bouanga,
bonjour,
un ami à moi, Arisbel Kebla, qui a joué là-bas.
Andy Delors,
ton ami.
Ouais, j'ai joué avec lui à Aubervilliers quand j'étais petit.
Et lui, il a percé. Hein, lui, il a percé dans le football.
Ouais, moi, j'ai percé aussi. Aris Belkebla, il fait pas l'after.
Ouais. Bah, moi, je suis avec Thibaut Jean-Grand, je fais des émissions.
C'est qui?
C'est toi?
Ah oui. Dans un instant, l'avis de Flo. Mais d'abord, on conclut sur l'avis de Walid, inquiet du management de Didier Deschamps. Et on a Majid qui nous appelle au 32-16. Salut Majid, bienvenue sur RMC.
Merci, salut à tous.
Merci d'avoir patienté. Est-ce que t'es d'accord avec Walid? Alors, est-ce que toi aussi, t'es inquiet par le management de Deschamps cette année?
Bah, en fait, j'aimerais rappeler à Walid que Deschamps, depuis 12 ans, même l'époque où il était entraîneur, c'est un mec qui s'appuie sur un noyau dur de 15, 16, 17 joueurs. Et en général, les coiffeurs, ils jouent que quand le troisième match est déjà plié. Donc bon, il n'y a rien d'étonnant pour moi. Le seul truc qu'on peut voir, c'est que Deschamps, il part avec des incertitudes physiques de son milieu de terrain. Griezmann, fin de saison avec Atlético, il était rincé. Rabiot vient blessé, Tchouaméni blessé, N'Golo Kanté pour interrogation sur sa condition physique, même si il a mis tout le monde d'accord sur le premier match face à l'Autriche. L'animation offensive, on n'en a jamais vraiment eu. Si, avec Griezmann, mais bon, par intermittence, pas vraiment de duo qu'on aurait pu avoir comme dans les années précédentes. Moi, personnellement, l'équipe de France, je la vois toujours favorite, parce que pour moi, il n'y a pas, à part un peu l'Espagne, qui m'ont impressionné. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros qui se sont montrés. Et je rejoins l'avis que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que les phases de poule de groupe, c'est devenu des groupes de qualification.
Non mais Madine, ça personne n'a dit le contraire. Bien évidemment que l'équipe de France, même s'ils jouent la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, ils auront rien à envier à ces sélections-là et ils doivent jouer avec beaucoup d'ambition. Moi, alors je veux bien moi que les phases de poule ne veulent rien dire. Maintenant, on va quand même analyser ce qu'on a vu sur les trois premiers matchs. Et moi, au-delà même du management, et je voulais rajouter ça, c'est que moi je trouve que Deschamps s'est trompé sur beaucoup de choix. C'est-à-dire que si on regarde les trois compositions d'équipe, quand la première, le duo Thuram-Mbappé, cette fameuse double animation là, où Thuram doit prendre les patins d'Mbappé, j'ai pas trouvé ça pertinent pour l'équipe. Sur le deuxième match, moi je répète, hein, mais je pense que il fait cette animation à quatre, qui a plutôt fonctionné défensivement et offensivement aussi. Les gens te diront qu'il s'est procuré des situations, mais pourquoi il fait ça? Parce que il est frileux dans son choix de mettre Barcola, parce qu'il a peur. Mais je rappelle à Didier Deschamps que, alors il y en a qui diront peut-être que c'est pas de la même valeur, que ces joueurs-là n'ont pas la même valeur que Barcola, peut-être et sûrement, mais il a quand même lancé Pogba et Varane sur un match contre l'Espagne au Stade de France en qualif pour une Coupe du Monde ou pour un Euro, je n'ai plus le souvenir. Il a quand même lancé Mbappé sur une Coupe du Monde 2018. Si tu peux pas mettre Barcola contre les Pays-Bas, troisième de ta poule, ou même le faire rentrer sur les 20 dernières minutes, il y a quand même un problème. La question de Tchouaméni, je répète, moi pour moi c'est parce qu'il y aurait eu des soucis dans le management et qu'il le met parce que bon, Tchouaméni, champion d'Europe avec le Real Madrid, bon, j'ai mis Kanté sur le premier match, il n'était pas à 100%, faut que je l'intègre. La même chose pour le troisième match. Il sort Griezmann, pourquoi? Parce que pour moi, je suis persuadé que son analyse, c'est que Griezmann n'est pas bon sur les deux matchs. Il faut que je fasse un électrochoc, comme il avait fait un petit peu à l'Euro 2016. Mais comme Kanté a été monstrueux au poste de numéro 8 sur les deux premiers matchs, il pense que Kanté, à la place de Griezmann, il pourra faire le boulot de Griezmann. Sauf qu'on se rend compte que sur cette composition d'équipe-là, mais Kanté numéro 8, numéro 10, c'est plus le même mais boulot. Valide. Et il se trompe encore une fois. Mais le gros problème.
Il a mis là, mais il peut pas penser ça. Personne ne peut penser ça.
Mais si, moi j'en suis persuadé.
Pas Didier Deschamps, c'est qu'il pas avec l'expérience qu'il a.
Sur un troisième match
Walid.
Contre la Pologne, en plus je mets Barcola, donc je vais mettre 3, 6, 8
qui peut penser
pour,
ça
pour bloquer. Moi je te dis, c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, mais c'est mon analyse là-dessus. C'est qu'il se dit, bon, Kanté, il est tellement monstrueux là, les gars. Griezmann, je vais le faire reposer. Sauf que le problème, c'est que si tu perds Griezmann, comme l'a dit tout à l'heure Florent, si tu perds Giroud, même si Giroud, je suis un peu plus nuancé, on en parlera après. Ça commence un petit peu à faire beaucoup sur tes, comment dire, sur tes cadres. Et surtout, ce n'est pas des choix payants. Quand Barcola, j'aurais bien aimé qu'il le prépare les 20 dernières minutes contre les Pays-Bas. Quand tu vois que, en fait, c'est à la carte. Il y a des joueurs qui jouent parce qu'ils sont meilleurs, mais il y a des joueurs qui ont un totem d'immunité. Quand tu vois que Dembélé, il fait deux fois 90 minutes et une fois 80 minutes, c'est pas normal par rapport à son niveau de jeu. C'est pas normal par rapport à son niveau de jeu. Et même comment il termine le milieu de terrain? Le milieu de terrain, il termine avec Fofana, Kamavinga, Griezmann. Les 20 dernières minutes. Vous avez vu les 20 dernières minutes contre la Pologne? Mais ça a été ridicule au milieu de terrain. On a été transpercés de partout. Il y a un moment donné, on est plus proche d'un 2-1 polonais qu'un 2-1 français. Mais c'est de la faute à qui ça? C'est de la faute à Deschamps qui encore une fois a fait une lecture de match défaillante.
Oui, alors encore une fois, ça c'est un peu dur. Ça lui arrive pas si souvent.
Je te parle sur cette compétition-là.
Oui, non, moi, tu dis encore une fois mais après, c'est pas nouveau de voir Didier Deschamps tâtonner. Alors là, il le fait peut-être plus que d'habitude en face de poule d'une compète.
Contre les Pays-Bas, elle est défaillante la lecture de match.
Non, mais
si on n'est pas premier, c'est parce que t'as pas voulu aller chercher cette victoire sur les 20 dernières minutes contre les Pays-Bas. Alors que sur la deuxième mi-temps, on est bien meilleur que.
Non, c'est qu'il l'a pas lu comme toi. C'est que lui, il a voulu assurer de ne pas perdre face aux Pays-Bas. C'est ça.
Bah, c'est bien ça. Oui. Non, pour moi, elle est défaillante. Parce qu'à la fin, t'as pas de première place. Et t'as un tableau Belgique, Espagne ou Allemagne. Et si on se donne rendez-vous dans 15 jours et qu'on perd contre ces équipes-là, et ben moi, ce match contre les Pays-Bas et sa lecture de match, elle me restera là.
Le vrai problème de Deschamps, c'est que il a du mal à faire jouer son équipe et à l'organiser offensivement. Donc en fait, Deschamps, il a fait un crime de lèse-majesté, ce qui lui arrive rarement avec son respect des statuts. C'est l'histoire Griezmann, qui à mon avis est terrible. En fait, le seul joueur offensif de cette équipe qui peut être le playmaker, qui peut faire jouer les Bleus, c'est Griezmann. D'ailleurs, on peut regretter qu'il n'y ait aucune solution. À mon avis, il n'y a qu'une solution. Parce que quand on dit Mbappé, oui, non, mais Mbappé, il démarre quand il a le ballon dans les pieds. Mbappé, quand il est bon, il va très vite. Il élimine quand il a le ballon. Il fait pas d'appel. Il veut pas faire pivot devant. C'est pas Mbappé. On joue pour lui. Mais c'est pas Mbappé qui fait le jeu. En revanche, c'est Griezmann. Et ça, en équipe de France, on a eu des bons matchs avec un Griezmann qui a été touché. Et comme Deschamps, il est dans une poule dans sa tête, lui, alors on peut pas lui reprocher ça, il sous-estime pas ses adversaires, Deschamps. Et lui, il se dit dès le départ, l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, ça va être compliqué. Sauf que tu le vois dans sa compo, quoi. Déjà dans sa composition de groupe au sens large. Et lui, il commence par bétonner pour être sûr de pas perdre.
Et en fait, en cours de match, Flo.
Je suis d'accord, mais sauf que derrière.
Tu te rends compte que
Griezmann, dans la composition, même dans les premières, il n'est pas touché. Il touche pas de ballon. Oui. Et donc, à partir du moment où Deschamps est comme ça, eh ben oui, effectivement, il a fait un truc de dingue. Il a fait d'un mec dont il a eu l'idée plutôt bonne d'aller le rechercher en Arabie Saoudite, à savoir N'Golo Kanté, en se disant, j'espère que ça va le faire à son poste.
Très belle idée.
Ouais, très belle idée. À son poste, on savait pas. Lui, il devait aussi avoir un doute sur le physique et tout. Ça marche. Et ben, il en a fait un meneur de jeu de l'équipe de France. Kanté, c'était le meneur de jeu de l'équipe de France.
Parce que les deux premiers matchs, comme il se projetait très haut et qu'il était pertinent, il s'est dit moi, sur le troisième, je peux.
Moi, je pense surtout que son problème, c'est que n'ayant pas d'idée dans l'animation offensive, en dehors de celle de se dire quand on touche Griezmann, qui touche Mbappé, ou à l'époque qui touche Giroud, qui touche Mbappé, ça marche. Comme il n'a pas d'autres idées que celle-là. Giroud, il estimait, peut-être à juste titre, parce que Giroud, il a eu un souci d'ailleurs à la fin du premier match, que physiquement, il était pas au top sur le premier match. Que Mbappé, on le sait, il est pas au top sur cette compétition. Que Dembélé a un peu raté tout ce qu'il a voulu, effectivement, et il avait plus de solution. Et là, et ce dernier, sa dernière compo est un peu une compo panique. mais qui aurait pu marcher. Parce que, en ayant, l'attaque que moi je prenais, c'est-à-dire l'attaque 100% Paris, il a failli s'en sortir, hein.
Oui, mais avec la création en bas. Mais
justement, le terrain, on en parle dans un instant, ce France-Belgique, avec l'avis tranché de Flo concernant Olivier Giroud. Je remercie Majid d'avoir été là avec nous. Merci Majid.
Merci Majid.
À très bientôt sur RMC au 32-16. 23h31, petite pause et on est de retour avec Flo Gautreau. Les Déchers Chauds et vous tous au 32-16 si vous voulez venir débattre après l'avis de Flo dans un instant.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC l'after une fois de plus en direct jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Flo Gautreau, le 32-16. Vous pouvez nous appeler, venir débattre en direct. Max est là au standard. Nous voir et commenter surtout votre soirée foot sur YouTube, la chaîne de l'after. Dans quelques minutes, l'actu olympique. OM et OL du jour avec,
C'est parti sur les JO.
Allez, JO.
Sur l'ouverture du réfectoire, tout ça, là.
Ah oui, oui, ah oui.
C'est un sujet que je suis très content de ne plus faire.
Ouais. moi aussi.
Vas-y, agis-moi. Non, mais genre, t'as le réfecteur des athlètes, on va faire un sujet sur les avant-sujets.
J-30, le réfectoire est-il prêt, tu sais, c'est et la piscine va-t-elle être prête pour les épreuves?
Surtout, c'est toujours, ça va pas être prêt.
Ouais. Mais là, en ce moment, c'est l'eau de la Seine. Tu sais, t'as les trucs. Ah, on a fait le test. Non, elle est toujours pas encore là. C'est ça le suspense.
J'ai fait tous les jeux d'été et d'hiver pendant un moment. Et j'ai fait, non, là, je les ferai pas. Mais sur les avant. Et les avant, c'est horrible. Ça va pas marcher, ça va pas le faire, ça va être nul. La Coupe du Monde 98, il y a des tas de soucis. J'ai des tas de sujets pour dire que ça allait être la merde. Et puis, bon, à la fin, c'est super.
Parce que vous. Ouais, mais parce que vous, les journalistes, voilà. Vous êtes là tout le temps.
Nous, c'est des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, j'ai fait un truc sur la Coupe du Monde 98 avec Daniel Bilalian, que je salue, qui était à France 2. Et puis, il me dit, il faut vraiment faire un truc. Pareil, il y a plein de problèmes. C'est sur l'orga de la Coupe du Monde avant.
Ouais.
Donc, je vais voir Platoche et tout, interview co-président du comité d'organisation, machin. Je titille dans tous les sens. Et il dit, mais... puis après, il dit, tu vas m'emmerder toute la journée. On fait une tournée des stades à Bordeaux. Il était là pour vérifier. Je dis, il paraît que les spectateurs du premier rang, ils vont pas voir parce qu'en fait, il y a la nouvelle barrière et tout. Et que moi, regardez, mais
c'est le chieur, ce Flo Gautreau, c'est incroyable.
Et à la fin, tout était super, on a gagné la Coupe du Monde et tout le monde a vu les matchs.
Magnifique, puisqu'on était dans le.
Mais bon, c'est comme ça.
On était dans le groupe A et on pouvait affronter le Brésil qu'en finale.
Quand j'étais à Sydney pour les Jeux de 2000, la polémique, ça, c'était pas l'eau de la Seine, c'était de savoir si les triathlètes allaient pas se faire bouffer par les requins dans la baie de Sydney.
Ah.
Mais là, il y avait un vrai sujet.
C'est un vrai enjeu.
Oui,
c'est dans de la mer.
Ou sous la Seine. Les requins sous la Seine en ce moment sur Netflix. Ouais. Film qui divise apparemment.
Ouais, je pense que c'est une bonne merde.
Ouais, je vais pas le regarder. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les bonnes merdes. 23h36, l'actu olympique sera donc les Olympiques lyonnais et marseillais, puisqu'il s'en est passé beaucoup aujourd'hui entre passage devant la DNCG validé et signature, en tout cas joueur en approche pour ces deux clubs. Mais d'abord, on referme l'Euro, l'équipe de France, avant ce huitième de finale contre la Belgique, lundi à 18h sur RMC, avec l'avis de Flo Gautreau.
Courtepaille, d'ailleurs, il y a un gros dossier, parce que figure-toi qu'il a failli disparaître. Moi, j'adore. Ouais. J'ai l'appli Courtepaille. C'est au-dessus de tout le reste sur autoroute. La petite salade d'accueil, les petites grillades. T'as les grillades, tu les vois.
Excuse-moi, je suis déjà le Courtepaille, je connais quand même.
Elle marche.
J'adore, c'est vrai, l'argument, il y a les grillades, tu les vois.
tu les vois.
Il est excellent et je
partage. En fait, oui, parce que tu les vois cuire.
Mmh, oui, non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Olivier Giroud.
Écoute, je reviens avec mon Giroud pour la 10e année consécutive. Je croyais pas revenir avec mon Giroud pour cette fois. Effectivement, j'avais demandé une attaque à un moment donné à Deschamps, 100% parisienne, Barcola, Dembélé, pour avoir un peu d'imprévisibilité, un peu de panache, voilà. Bon, j'ai pas été 100% convaincu, mais ça m'a quand même fait plaisir de voir mon petit Bambi aligné sur le côté gauche de l'attaque de l'équipe de France. Et pourquoi je dis qu'il faut mettre Giroud? Parce que Mbappé, moi ça me dérange pas qu'il soit en neuf, parce que et je comprends pourquoi on le met en neuf pour les raisons qu'on connaît, il défend pas et donc tu déséquilibres toute l'équipe en faisant ça. Mais c'est vrai qu'il a pas été bon à ce poste-là. C'est vrai que là aussi à ce poste-là, je le disais tout à l'heure, il ne fait pas suffisamment d'appels, il attend d'avoir le ballon dans les pieds pour démarrer, il veut pas jouer, il peut pas jouer en pivot, ça peut pas être un neuf pivot, c'est pas son profil.
J'ai
revu
deux trois actions là de Barcola où il doit faire l'appel plein axe et lui proposer où il est milieu de terrain.
Oui, 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 tout à fait. Il revient entre les lignes. Donc, bref, Mbappé 9, ok. Moi, je préfère qu'il soit 9 pour l'équilibre, mais c'est pas génial. Thuram 9, j'avais oublié évidemment ça. Le début, pareil, j'ai prôné Thuram 9 aussi parce que je voyais que Giroud était sur le déclin et qu'il allait falloir le remplacer. Je pensais que ça pouvait être le 9 des Bleus. Il n'arrive pas à s'imposer en tant que 9 des Bleus. À partir du moment où on a les informations selon lesquelles Giroud, qui a souffert, je le disais tout à l'heure aussi, d'un adducteur à la fin du premier match, est à 100%. Et il y a les infos de Valentin Jamin qui est sur place, qui nous dit qu'il a mis 2 buts à l'entraînement cet après-midi, qu'il a à bloc, qu'il a à fond. Je dis mettons Giroud pour plusieurs raisons, pas seulement parce que j'aime beaucoup Olivier Giroud, mais parce que sur les quelques actions qu'on a pu voir avec lui et sur ce profil particulier, il a quand même un truc et qui est un peu l'ADN de cette équipe de France, puisqu'on cherchait à savoir comment offensivement on allait pouvoir connecter tous ces gens-là, Griezmann, Giroud, Mbappé. On revient avec une vieille recette, mais à mon avis c'est une recette qui peut fonctionner. Tu remets Mbappé sur le côté gauche. Il faudra effectivement quelqu'un derrière lui, évidemment, pour compenser. Mais ça, on l'a déjà fait. Tu mets Giroud en neuf s'il est en forme. Évidemment, il ne fera pas les 90 minutes. Ça, c'est un enjeu qu'il faut prendre en compte. Et en espérant qu'avec ce système-là, tu retrouves Griezmann, tu le connectes au reste de l'équipe et ça peut le faire. Donc, pour cette raison-là et pour l'adversaire, par rapport à cet adversaire, je pense que Giroud peut faire du mal, peut user et peut rentrer dans la tête de cette défense belge qui, même si elle a encaissé, je crois qu'un but finalement dans toute la compétition, je l'estime pas super costaud et je suis pas très impressionné comme tout le monde par l'équipe de Belgique. Donc je dis pour le début du match, puisque maintenant il faut changer en cours de jeu, même si Deschamps n'est pas un adepte aussi des changements précoces, je pense qu'effectivement il serait bon de commencer ce match avec Giroud en 9.
32-16 si vous voulez réagir à l'avis de Flo, Walid.
Je comprends l'avis de Flo.
Giroud titulaire.
On ressort le bon vieux pot de confiture.
Ah, exactement.
Parce que
la bonne méthode contre une équipe pas très forte.
Oui, ça s'entend. Après moi, il y a un truc. Bon, déjà Flo qui nous dit qu'il a mis 2 buts à l'entraînement. J'espère que c'est pas son meilleur argument parce que en tant que numéro 9, j'espère que Olivier Giroud met des buts à l'entraînement. Des petites oppositions.
Alors,
cette
tu sais
compète.
Que l'autre jour à la fin d'une séance, Mbappé n'a pas cadré une dans l'entraînement.
Échauffement, on est trop.
Non, ouais, les tirs de fin de match, de fin d'entraînement.
D'accord.
Bon, ok. Il n'y avait pas que ça. De ce que disaient les gars qui suivent les Bleus pour RMC, c'était aussi l'implication, le côté. Un bloc, peut-être qui sait, qui sent un truc.
Oui,
je sais pas.
Peut-être. Non, mais moi, je suis pas contre l'idée. Bien évidemment que le 4-2-3-1, 4-3-3 qui avait fonctionné à la Coupe du Monde 2022, notamment contre la Pologne, moi, j'aurais aimé le revoir. Mais bon, Deschamps nous explique quand même depuis 3 semaines, ou en tout cas, les insiders nous expliquent que pour lui, dans sa tête, Giroud n'est plus prêt physiquement, que Griezmann ne peut plus jouer dans ce rôle-là parce que lui non plus n'est pas prêt physiquement et que Mbappé ne peut pas jouer aussi dans ce rôle à gauche parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Donc, c'est un peu les signaux qu'on nous envoie. Là où j'ai beaucoup critiqué Deschamps sur le dernier quart d'heure, mais je vais quand même lui octroyer un point positif, c'est que sur les entrées de Giroud, il a pas tort. Parce que pour moi, pour les entrées de Giroud contre l'Autriche et contre les Pays-Bas et la Pologne.
L'Autriche, il a très peu de choses.
Il a une grosse occasion sur la passe de Colomani. Pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Et je sens qu'il n'a pas le jump.
Tu veux dire, il n'a pas tort de quoi? De pas le mettre titulaire?
En fait, l'impression
que Giroud me donne sur ses entrées, c'est véritablement ce que en fait pense Didier Deschamps, c'est que physiquement, je le trouve un peu emprunté par rapport à avant. C'est-à-dire le petit jump là pour être pour finir, parce qu'il a cette qualité là sur une touche pour.
Juste après, je te laisse finir. Pour ça, effectivement, et on était avec les proches de Giroud, c'est à Grenoble. Il est vrai que, on nous l'avait dit d'ailleurs, il pensait même pas forcément qu'il allait sortir, tu vois, du banc ce soir-là, parce qu'il avait une gêne qu'il avait eue contre l'Autriche.
Les adducteurs.
Et lié aussi à la prépa, c'est-à-dire qu'ils ont refait une petite prépa pour spécifique Euro assez courte, qui l'aurait un peu, qui confirme qu'il est quand même effectivement de toute façon un peu fatigué. Hein,
Mais il y avait cette question ponctuelle. Et qui sont ces prépas-là dont tu parles, Flo, des prépas qui doivent permettre aux Bleus d'arriver à leur pic de forme là à partir des huitièmes de finale. Ouais.
Sur le match des Pays-Bas, il a été introuvable, mais bon, c'est pas de sa faute parce que je trouvais l'animation offensive très très frileuse. J'en ai parlé tout à l'heure. Et sur le troisième match, il rentre quand même 30 minutes. On l'a pas trouvé, où il y a une occasion qui est un peu similaire à celle de l'Autriche avec un centre, je sais pas si c'est Dembélé ou un autre joueur, et là où aussi il est un peu en retard, où il bute sur le défenseur, même dans son jeu de haut but, j'ai trouvé un peu en difficulté dans les duels. Donc oui, moi je dis pourquoi pas ce que dit Flo, mais pour l'instant parce qu'il a quand même eu une demi-heure, 20 minutes. Je trouve que il manque quelque chose. Et moi, je vais peut-être en faire crier plus d'un.
Waouh.
Mais le match de Marcus Thuram contre les Pays-Bas, autant contre l'Autriche, j'avais été très déçu.
T'as aimé.
Et il avait. Non, c'est pas que j'ai aimé, mais j'ai trouvé utile sur certaines situations, notamment les deux déviations qu'il fait en première mi-temps et en deuxième, ouais. qui sont les deux plus grosses occasions de la France contre les Pays-Bas. Je te dis pas que Thuram doit jouer d'office, mais il y a des matchs où Giroud, on a souvent dit match dans l'ombre, qui permet aux autres d'être meilleurs, où il va jouer en remise. Je trouve que Thuram, on a été très très dur sur les analyses après les Pays-Bas.
Parce que Thuram aurait dû prendre la place, il devrait pas y avoir de débat malheureusement.
Oui, oui. Mais entre-temps, il a remis Mbappé en neuf et il a fait jouer Giroud sur la deuxième partie de rencontre. Moi, je reste persuadé qu'il mettra la même compo que face aux Pays-Bas avec Mbappé à la place de Thuram. Et il jouera comme ça et il fera comme ça toute la deuxième partie de compétition.
Christophe est là, supporter des Bleus au 32-16. Salut Christophe, merci d'avoir participé.
Salut Christophe. À tous.
Est-ce que tu partages la vision de Flo, la vie de Flo?
Oui, Flo.
Giroud doit être titulaire.
Giroud titulaire, ouais. Mais après, il y a un truc qui me gêne un petit peu. Moi, on dit que Mbappé n'est pas en forme, même sur le côté gauche, il est physiquement tout ça. Mais dans ce cas-là, alors, il a qu'à aller au bout du truc. Il met Mbappé sur le banc. Il met le petit Barcola qui a fait un bon match. Et voilà. Comme
non, mais Mbappé, les gars, tu peux pas mettre Mbappé sur le banc, les gars.
Et Il a rien fait.
Je pense pour le coup que là où je ferai un reproche à Deschamps, c'est sur les changements trop tardifs. Et effectivement, sans doute, là aussi, une hésitation à sortir peut-être plus tôt les joueurs. Mais non, tu peux partir avec Mbappé sur le terrain. C'est pas
oui,
un souci.
Pas avant-centre.
Ah non, c'est un débat.
Tu mets côté gauche. Désolé, avant-centre, il faut rien, Mbappé. C'est un super joueur, mais voilà, il a rien montré. Il y a un truc qui me gêne aussi. Moi, je vais parler des absents. Il y a un absent qui s'appelle Alexandre Lacazette, qui a fait une saison de folie dans un club, pourtant, qui était pas au top. Et il a fait une super saison. Il a marqué 19 buts, je crois, en championnat. 3 buts en Coupe de France. Ma foi, et ce gars-là, tu me prends pas, il est en pleine forme, et tu me prends pas.
C'est dans la logique de construction.
Il se réveille en 2024, même si demain il pouvait avoir, je sais pas, Pierre Ivamel à la place de Lacazette, il prendrait Pierre Ivamel. On a compris avec Lacazette, hein, il avait mis un doublé contre l'Allemagne, il était dans la forme de sa vie, il a préféré Gignac, qui était au Mexique. Faut arrêter de penser que Lacazette, dans l'esprit de Deschamps, est une solution fiable.
Non, c'est la mentalité, a priori,
ça reste à prouver. Mais encore
non,
une fois,
mais je te dis, mais il l'aime pas. C'est que c'est, ouais, voilà, enfin, la mentalité, ouais, c'est, ouais, c'est pour, dans l'histoire
c'est
du groupe toujours.
C'est la mentalité qui joue alors parce que la
forme
est là.
La mentalité. Oui. Quand on parle de management depuis le début du tournoi, je sais pas si la mentalité.
Non, mais en tout cas, c'est le management de Deschamps. Oui, évidemment, oui. c'est pas sur des critères sportifs.
J'ai mis pour lui pendant 3 ans. J'ai abandonné.
Moi, j'ai une idée, les gars.
Tu vois, Flo, il abandonne pas pour Giroud. Ouais, Christophe.
Moi, j'ai une autre idée, moi. Éric Dimeco, préparateur mental de l'équipe de France.
J'ai pas entendu.
Éric Dimeco, préparateur mental de l'équipe de France.
Très bonne idée.
Mais tu peux avoir d'autres soucis après.
Tu peux avoir des cartons rouges.
Non, mais Éric, c'était un phénomène. Moi, c'est un joueur que j'ai admiré, franchement. Une mentalité hors norme, vraiment. Sans rire, mis à part le fait
qu'il était dur. Je vais te dire un truc, c'est que sur la mentalité, je parle notamment des joueurs défensifs, du bloc défensif, tu vois, c'est pour ça qu'il faut voir comment il arrive à organiser offensivement son équipe. Maignan. On en parle très peu, mais Maignan, il rentre dans son équipe pour une grosse compète pour la première fois. Maignan, tu le vois parler à ses défenseurs, tu vois, le mec, c'est le boss absolu.
Ouais, leader.
Donc t'as un leader comme ça, Saliba, qui s'est imposé parce qu'il s'est dit bon, maintenant faut que j'aille parce que j'ai fait une saison énorme. Mais à chaque fois que je suis en bleu, je suis un peu en moins bien. Il fait un début énorme.
Koundé est pas mal.
Non, mais même le milieu de terrain avec les Kanté, tu savais pas où il en était. Donc en fait, tu as aussi des certitudes avec des mecs qui ont de l'expérience. Je pense à Kanté, du caractère. Donc, t'as quand t'as Théo Hernandez sur le terrain, là, t'as pas des mecs de caractère. Donc, il a tout ça. Mais à partir du moment où il va pas récupérer son animation, enfin, ses joueurs offensifs, c'est pour ça que j'avoue, hein, c'est quelque part un manque d'idées, hein, même de ma part. Je repars comme disait Walid, sur une vieille formule, parce que je pense que comme il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire pour innover, et comme il a pas mis Barcola contre les Pays-Bas de manière totalement incompréhensible. Bah, je me dis, refais ce que tu sais faire de mieux. Oui. Alors effectivement, avec un bémol près, c'est que je ne sais pas si Giroud sera suffisamment en forme pour faire 60 minutes de très haut niveau.
On verra lundi. Lundi 18h pour le coup d'envoi, sera une journée exceptionnelle sur RMC. Je remercie Christophe d'avoir été avec nous au 32-16.
Merci
Christophe, tu es un phénomène.
Et Thibaut, attention aux Belges, parce que je commence à entendre partout, on a gagné, non, c'est des bidons.
T'as pas entendu ça?
Ah si, j'ai entendu ça. Enfin, je caricature un peu.
Oui,
mais
voilà,
presque.
C'est ça.
Mais presque. Les Belges, c'est vrai qu'ils ont fait une phase de poule décevante, mais attention, attention.
Merci Christophe, 23h48, on est en direct jusqu'à minuit, on fait une petite pause et dans un instant l'actu de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, grosse journée pour ces deux clubs, je vous explique tout dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Encore 10 minutes à passer ensemble, Walid Acherchour, Flo Gautreau sont là. Merci à vous également d'être fidèles à l'after comme tous les soirs. D'ailleurs, demain, after court mais efficace, que demain soir, il y a la finale de du championnat de France de rugby, finale du top 14 à vivre sur RMC. Alors, toi, non, moi, un petit peu, parce que je présente cette soirée, mais dans la foulée, sera l'after foot et vous serez là, les gars.
Quoi, c'est Toulouse-UBB?
Ouais. Exactement.
On va faire une petite note au Toulouse-UBB, parce qu'on fait une heure d'un débrief de Toulouse-UBB.
C'est qui le favori, à ton avis, là, 24 heures comme
pour
ça?
Pour moi, c'est Toulouse.
Ouais, malgré la présence de Jalibert au coup d'envoi.
Attention à...
Ah bon, il est là?
Ouais, il est là.
Attention finalement. À Laurent Jalibert en danseuse, ça peut être.
bien sûr.
Moi, je pense que
tu l'as vu courir? Hein courir? Tu l'as vu courir,
bien
Laurent Jalibert?
Bien sûr, j'ai vu quoi. Moi aussi, j'étais un grand fan du Tour de France.
Moi aussi.
J'allais au Bled, j'allais en Algérie deux mois de.
Il kiffe là-bas.
De juillet à août. Et en fait, en juillet, j'étais chez ma grand-mère et mon père. Je raconte ma vie. Hein. Mais mon père nous rejoignait en août. Et donc, en fait, on n'avait qu'une télé. Et donc, on avait les 6 chaînes. Et en fait, je me tapais le Tour de France pendant 3 semaines et je kiffais
mais
ça.
Tu regardais tout seul ou là-bas c'est un
truc des Algériens? Non, tout seul.
C'est quoi les années ça?
Les années Armstrong.
Les années
Ulrich, ouais,
Iban Mayo.
T'aurais pu me voir.
Jusqu'à
sur la moto?
Je crois que c'est la période jusqu'à Rasmussen.
C'est que moi j'ai fait
Rasmussen avec Rabobank.
Ah ouais.
J'ai fait la montée.
Ils montent avec Contador à un moment donné. Ouais. Les mecs, ils ont la poignée.
Ouais. J'ai fait la montée de Sestrière. La montée de Sestrière 99. J'étais à où j'ai vu Armstrong. J'ai fait un sujet dans le 20h en disant stupéfiant, hallucinant, comment un coureur qui n'a jamais été un pur grimpeur a-t-il pu infliger une telle leçon aux spécialistes de la discipline.
Et ben voilà, 10 ans, 12 ans avant tout le monde.
Parce que tu sais pourquoi je disais ça? Parce que c'était 99 et que c'était un an après l'affaire Festina et qu'on avait vendu le tour comme le tour du renouveau.
Ouais. Ah ouais.
Bien vu. Bingo. Allez, 23h52, retour au foot. Donc demain, l'after sera là quand même après le rugby. Pour vous dire que ce 27 juin a été une journée efficace, j'ai envie de dire, pour l'OL, puisque premièrement, la DNCG ce matin n'a pris aucune mesure contre Lyon, qui va avoir les mains libres, comme on dit cet été. Je dis ça parce que l'été dernier, souvenez-vous, l'OL avait subi un encadrement de la masse salariale. Et dans la foulée, on a appris que Moussa Niakate allait s'engager, défenseur de Nottingham Forest de 28 ans. Il doit passer sa visite médicale.
Sénégalais, titulaire
demain.
Titulaire avec le Sénégal, à côté de Koulibaly.
Et selon l'équipe et Fabrizio Romano, ça va coûter 31 millions d'euros. Montant record de transfert pour l'Olympique Lyonnais, ce serait le plus cher.
Ouais.
Tu connais bien ce...
Je connais,
31
je,
millions, ça semble très cher pour ce joueur.
Je le connais un peu plus avec le Sénégal, où il a fait des matchs assez solides. Les échos que j'ai, c'est que ça reste un bon défenseur, qui a été remplaçant sur la première partie de saison et qui, derrière, s'est imposé... dans cette équipe de Nottingham Forest. Maintenant, c'est le prix, moi, qui me...
Ouais. Je rappelle, comme le dit Gilbert, qu'on a toujours tiquer. Pas les...
Ouais.
Le foot français est toujours en faillite virtuelle.
Oui.
Mais à Lyon, ça a la planche
30 millions d'euros après les 27,5 qu'ils doivent lever sur Mangala, parce qu'ils ont que 10 millions de prépayants, donc il reste 17 millions à lever. Donc ça ferait 60 millions. Bon, enfin, ça reste à confirmer, hein, les 30 millions, on verra. Hein, L'OL est coté en bourse, donc on va vite le savoir. Mais 60 millions pour deux joueurs de Nottingham Forest.
Il n'y a pas un doute sur la somme.
On va voir,
c'est pas encore officiel, donc le doute on peut toujours l'avoir.
20 millions ce serait déjà beaucoup plus raisonnable.
Non mais il me semble maintenant, que là, c'est dans les chiffres qui ont circulé aujourd'hui, j'ai regardé, il y avait deux
en tout cas l'équipe qui est bien renseignée,
c'est 30 millions,
et sur Transfermarkt il est évalué à 16 millions d'euros. Après ça reste Transfermarkt, mais apparemment il avait aussi des sollicitations en Italie et en Angleterre, mais payer 30 millions d'euros quand même, je trouve ça excessif.
Il aurait refusé Crystal Palace, le LOSC. Alors, en dehors du prix.
Le LOSC à 30 millions, je ne suis pas sûr qu'il.
Ouais. Ouais. Mais en dehors du prix, c'est effectivement une bonne recrue. C'est une recrue précoce, en plus. La nouvelle, effectivement, que tu donnes sur la DNCG, tout ça, c'est quand même des nouvelles. C'est un autre Lyon, quand même, par rapport à celui qu'on avait avant qu'on sache si Textor allait vraiment faire l'effort.
Après, sur la DNCG, apparemment, il a dit aussi qu'il devait vendre pour 70, entre 70 et 100 millions cet été. Je sais pas où est-ce qu'il va les trouver les 70 millions de ventes, hein, parce que Cherki, on l'évalue entre 15 et 25. Après derrière, il va falloir qu'ils vendent quand même pas mal de joueurs. Autant l'année dernière avec Loukeba et Barcola, ils pouvaient les avoir et s'en rapprocher. Là, j'ai un peu plus de doutes.
L'OM également proche d'avoir sa première recrue, enfin sur le terrain bien sûr, puisque Ismaël Koné devrait s'engager dans les prochaines heures, contrat de 5 ans. Roberto De Zerbi voulait absolument le milieu axial canadien qui joue à Watford, montant du transfert 12 millions d'euros. Après donc Ismaïl Assar qui venait de Watford également,
qui était à Sheffield l'année dernière en Championship. Moi, j'ai des échos très positifs sur Ismaël Koné. On l'avait vu contre le Canada, notamment en phase éliminatoire, les amicaux, pardon, avant l'Euro. Et il nous avait tapé dans l'œil. Ça avait été le meilleur milieu de terrain avec Kanté sur le match. 12 millions d'euros. On me dit que c'est un prix qui est pas cher du tout par rapport à ce qu'il vaut. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Mais j'ai l'impression quand même, on en parlera sur les prochains jours, Thibaut, mais que Marseille est en train de rajeunir son effectif. Hein. Parce qu'entre Lilian Brassier, 23 ans, Koné, je crois qu'ils étaient aussi sur le petit Bellumi.
Tu veux dire que c'est une stratégie différente, les gros salaires chers.
Moi, je pense qu'ils veulent mettre des joueurs jeunes à fort potentiel dans les mains de Roberto De Zerbi pour créer de la valeur marchande et de la plus-value. Et je pense que ce serait pas une mauvaise idée sur une saison où ils ont pas de Coupe d'Europe. Sur le gardien aussi, j'ai entendu.
Paul Lopez pourrait partir.
Ouais, Paul Lopez pourrait partir. Je serais pas surpris. Je crois que c'est Santi FM qui l'a sorti que Ilan Meslier pourrait arriver qu'à 24 ans. Je pense qu'ils sont dans cette range-là de politique sportive sur ce mercato.
Et d'ailleurs, l'OM qui s'intéresserait aussi, même si là on est au début des négociations, de près à Mason Greenwood, l'ailier de 22 ans, qui est aussi dans le viseur de plusieurs grands clubs italiens.
Très bonne histoire à lire sur Mason Greenwood en Espagne. Ça, sur son arrivée, c'est une histoire incroyable.
Ouais, il a été prêté à Rétafé cette saison, mais Manchester United, à qui il appartient, veut s'en débarrasser.
Pour ceux qui savent pas, c'est un très bon, faudra qu'on en parle un jour avec Fred Hermel, une équipe qui assume, entre guillemets, je caricature, vraiment de jouer moche. Et lui est arrivé là-dedans avec son histoire en Angleterre, tu sais. Ouais. Et s'est imposé, on va dire, là-bas, mais c'est intéressant. Ouais.
C'est vrai qu'il a une histoire avec. Sa compagne,
violence conjugale.
Ouais. Ça me gêne un peu plus.
Et puis, je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour un drame aujourd'hui avec l'annonce de la mort de Landry Nguemo, ancien international camerounais qui est décédé aujourd'hui dans un accident de la route, 38 ans. Ses anciens clubs français, notamment Saint-Étienne et Bordeaux, ont partagé leur tristesse. Nguemo avait fini sa carrière à Nancy. Il y était devenu entraîneur des jeunes et ce soir. Grosse pensée, grosse force ce soir à toute la famille de Landry Nguemo.
Tragique.
Voilà, merci en tout cas les gars.
Merci
Walid,
merci.
Flo, c'était un plaisir. L'after de retour demain, je remercie Tim à la Real.
Après c'est UBB Toulouse.
Exactement, donc un peu plus tard parce que le rugby ça commence jamais à l'heure et ça finit toujours très tard. Merci également à Jérôme Thomas, à Max du Standard et merci à vous d'être là fidèles à l'after comme d'habitude. À demain, ciao.
RMC, l'after foot.